Bonjour, on est le dimanche 5, qu'est-ce que je raconte, non, on est le dimanche 5 juillet, alors, faut pas que je dise des bêtises, hein, 5 juillet, voilà, et ma prédication c'est « Comptez bien vos jours ». Il y a quelque chose qui nous dérange, qui vous dérange peut-être, sans que vous ayez vraiment la possibilité de formuler clairement la chose, c'est que c'est quelque chose au sujet de la vitesse avec laquelle les années s'écoulent. C'est pourquoi ma prédication est « Comptez bien vos jours ». Et que le temps nous échappe, le temps t'échappe sans que tu puisses le maîtriser. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. À la communauté, nous fêtons souvent des anniversaires, puisque nous sommes nombreux, alors des gâteaux, des bougies à souffler, tout ça, c'est une tradition chez nous. Et puis, il m'est arrivé de penser que la moitié de ma vie, eh ben, elle est déjà derrière moi. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à des choses comme ça, mais il m'est arrivé de me demander, mais pourquoi est-ce que le temps passe si vite? Pourquoi seulement 70 ans? Pourquoi seulement 75 ans? Pourquoi seulement 80 ans? Eh bien, alors, je voudrais vous lire dans le psaume 90, le psaume 90, verset 10. Voilà ce qui est écrit, c'est Moïse qui prie et qui dit « La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. » Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Eh oui, nous nous envolons. Pourquoi cette frontière que personne ne peut franchir, enfin, bien sûr, il y en a qui arrivent à vivre plus longtemps, mais bon, c'est quand même exceptionnel de vivre 122, 123, 140 ans. Pourquoi cette limite que chacun de nous, au bout du chemin, comme ça, voilà, maintenant, voilà, 80 ans. Voici ce que presque personne ne sait. Voici ce que la grande majorité des croyants n'a jamais examiné sérieusement. Même les théologiens passent là-dessus trop brièvement, comme s'ils avaient peur de rester trop longtemps devant cette question. Avant le déluge, avant que les eaux ne recouvrent la face de la terre et n'emportent la civilisation dans l'oubli, eh bien les hommes vivaient à peu près 900 ans. Certains ont approché presque 1000 ans. Mathusalem a atteint 969 ans. On trouve ça dans Genèse chapitre 5, verset 7. Enoch, vous savez que j'ai écrit un livre de commentaires du livre d'Enoch, il a marché avec Dieu avant d'être enlevé, il a écrit ses choses, il a écrit des choses là-dessus, Noé lui-même, il a vécu 950 ans. C'est pas des métaphores, hein, c'est pas des histoires racontées pour remplir la Bible, pour qu'on puisse les lire, qu'on dise, ah bon, 900 ans, ça me paraîtrait un peu long, mais enfin quand même. Les choses sont écrites dans les textes sacrés et posent une question, même plusieurs questions, d'une gravité extraordinaire. Qu'est-ce qui a changé depuis le déluge? Qu'est-ce qui a décidé que l'homme ne vivrait plus aussi longtemps? Quelle main a décidé de raccourcir nos jours et pourquoi? Eh bien, je vais vous donner la réponse, mais pour comprendre ce que Dieu a fait, parce que c'est Dieu qui l'a fait, il faut d'abord comprendre ce qu'il a vu. Qu'est-ce que Dieu a vu? Il faut retourner au moment précis où le temps a commencé à se contracter. Il faut oser regarder en face ce qui est écrit dans Genèse au chapitre 6. Ce chapitre 6 que les croyants lisent trop vite sans même le lire, chercher la profondeur du gouffre qu'il y a là dans ce chapitre, et sans même entendre le cri de douleur de Dieu qui résonne entre ces lignes. Je vais vous le lire, ce chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent données, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. » Il a pris une décision. Il y avait des gens sur la terre à cette époque, et ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se fussent unis aux filles des hommes et qu'elles eurent et leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. D'autres versions disent des géants, des Néphilim. Alors, à la fin de mon message, tu comprendras que la réduction de la longueur de ta vie n'est pas une punition lancé par un Dieu en colère, mais c'est un acte divin de miséricorde calculé. C'est même un message urgent que Dieu nous adresse, à toi, à moi, aujourd'hui, à ce moment précis, à travers la structure de ton existence temporelle. Dieu veut te parler, et ce que je vais te dire là n'est pas de la théologie réservée à une élite académique. Non, c'est une question qui touche ta vie concrète et de l'usage que tu en fais, de l'éternité qui t'attend. Alors, retournons avant le déluge dans un temps qu'on a de la peine à imaginer, en fait. Mais nous avons besoin de comprendre. Imaginez un homme qui a 400 ans, donc avant le déluge, et qui est en pleine forme, qui est au meilleur de sa forme. Imagine des civilisations bâties sur des siècles d'expérience accumulées, qui n'ont jamais connu tellement de gens qui ont mouru, qui sont morts, et qui, dans leur famille même, puisqu'ils vivaient des centaines d'années. Imagine une corruption qui n'a pas duré seulement quelques décennies, mais qui n'a pas été limitée par la mort des individus les plus dangereux et les plus corrompus, mais qui s'est enracinée, qui s'est approfondie sur des centaines d'années, avec des architectes du mal qui avaient le temps de perfectionner leur système, d'endoctriner les générations successives, et de construire des structures de péché dont les profondeurs étaient proportionnelles à la longueur de leur vie. C'est comme ça que la Bible nous dit que c'était avant le déluge, et c'est ce monde que Genèse 6 vient exposer dans toute sa noirceur. Et dès le verset 1, on voit quelque chose qui se brise dans l'ordre de la création. Voilà, Dieu voit les fils de Dieu. En fait, les fils de Dieu, c'est les anges, hein, faut pas se tromper, ce sont des anges déchus. Jude 6 le confirme cette lecture en nous disant que, je peux vous le lire, dans Jude 6, c'est dit, les anges qui n'ont pas conservé leur rang mais ont abandonné leur demeure propre, ils ont été enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Et puis dans Job, il est dit, quand les fils de Dieu venaient trouver Dieu devant son trône et discuter le coup, même Satan était présent, les anges de Dieu, c'est les fils de Dieu. Donc, les fils de Dieu se sont unis avec des femmes. Alors, il y en a qui discutent là-dessus. Oui, mais est-ce que les anges ont le sexe, etc., etc. Moi, je lis ce que je vois dans la Bible. Jude 6 confirme cette lecture et le livre d'Enoch en parle clairement. Vous pouvez prendre ça dans mon site révélationbible.fr et vous trouverez le livre d'Enoch avec mes commentaires. Ces unions contre nature ont produit les Néphilim qui sont évoqués dans Genèse 6:4. C'était des êtres d'une puissance extraordinaire et ce n'est pas que ce fait-là, leur présence, leur influence, l'influence des Néphilim qui pousse Dieu à prendre une décision radicale, c'est la méchanceté des hommes. Et que tout, que toutes les pensées de leur cœur étaient tournées vers le mal. Chaque pensée, nous est-il dit, en tout temps, pas seulement parfois, pas seulement quand ils étaient tentés, mais tout le temps, tournée vers le mal. Et ces pensées accumulées pendant des siècles, c'était pas de la sagesse, mais c'était de la perversion. Et ces pensées ne favorisaient pas du tout la lumière. Mais ça favorisait les ténèbres, ça devenait grave, et de plus en plus dense, de plus en plus organisé, et de plus en plus résistant à toute révélation divine. Dans le livre d'Enoch, on apprend que les Néphilim ont enseigné des connaissances qui étaient interdites, par exemple l'art de la guerre, comment fabriquer des armures, des cuirasses, des armes. Ils leur ont enseigné les enchantements, la sorcellerie, et les hommes ont appris avec tout le temps qu'ils avaient devant eux. Ils avaient le temps d'apprendre, hein, ils ont appris, ils ont approfondi, ils ont transmis ces enseignements aux générations qui sont venues après, toute cette corruption qui est devenue finalement structurelle. Elle est devenue le fondement de cette civilisation avant le déluge. C'était la perversion, c'était la corruption. Et elle a cessé d'être une corruption individuelle pour devenir la norme, c'est-à-dire la culture normale. Et Dieu en a souffert. Et le verset 6 contient le texte le plus touchant de toute l'Écriture. Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Dieu se repentit, regretta, se repentit dans certaines versions d'avoir fait l'homme sur la terre. Et c'est pas par colère soudaine qu'il a pris sa décision, mais c'est dans un désolement de père qui avait tout donné pour que l'homme puisse être bien et qu'il vive bien sur cette terre, et puis voyant que bon, il corrompait tout et que voilà, c'est le cœur d'un père brisé. Et le déluge arrive avec toute sa puissance destructrice. Et quand Noé sort de l'arche pour reconstruire sur les ruines d'un monde détruit, eh bien quelque chose a changé de façon absolument irréversible. Le temps de vie de l'homme a été recalibré. Et si vous lisez à partir de Genèse 11, vous verrez que les choses ont changé, mais petit à petit. Hein. Sem, par exemple, fils de Noé, il n'a vécu que 600 ans. J'arrive pas à le dire. Porchad a vécu 440 ans à peu près. Hein. Il y a quelqu'un qui s'appelait Sheila, c'est pas Sheila la chanteuse, hein. Il a vécu 438 ans, Hébé 464 ans, et puis est arrivée la grande chute avec Péleg qui a vécu 239 ans, et Réhou 237, et Nahor 148, Terah 200 ans, et la chute continue jusqu'à Abraham 175 ans. Jacob 147, Moïse 120, et le psaume 90 fixe la durée de la vie humaine à 70 ans et à 80 ans pour les plus robustes. Et maintenant, avec les progrès de la médecine, on arrive à prolonger les gens, mais dans un état épouvantable la plupart du temps. Ils sont. Enfin, bon, voilà. Mais c'est une décision divine. C'est une décision prise après que Dieu ait vu ce qui s'est passé dans le monde antédiluvien, c'est-à-dire avant le déluge. Il ne voulait pas que ça se répète. La question est pourquoi la réduction de la durée de la vie humaine est un acte de miséricorde. Comment raccourcir la vie de quelqu'un peut être un acte de grâce. Comment un Dieu d'amour peut-il limiter ce qui semble être un don, la vie, on aime la vie, et appeler cela de la bienveillance. Eh bien, c'est que beaucoup de temps donne à l'homme de produire non pas la repentance, mais ni la sagesse. Au contraire, ça produit encore plus de rébellion. Ça ne produit pas un retour vers Dieu. Ça produit une consolidation du péché, l'approfondissement de la rébellion contre Dieu, l'endurcissement à la résistance, à la grâce de Dieu. Une longue vie donnée à un homme dont le cœur s'est éloigné de Dieu n'est plus une bénédiction. Le cœur humain ne s'améliore pas avec le temps. Je disais ça l'autre jour à ma coiffeuse, je disais, je croyais qu'en vieillissant je deviendrais sage, mais pas du tout. C'est vrai, on vient pas. On dit, la sagesse, les cheveux blancs, la sagesse, tu parles. Le cœur de l'homme s'endurcit, le cœur de l'homme durcit, il se calcifie, il développe des systèmes de croyances de plus en plus sophistiqués pour pouvoir éviter de se confronter aux conditions de Dieu, d'un Dieu saint. On va relire le psaume 90, mais cette fois en entier, pour que vous voyez bien la chose. Psaume 90, c'est donc là la prière de Moïse. Voilà ce qu'il dit. « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes semblables à un rêve qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe, le soir, elle sèche, et nous sommes consumés par sa colère, par la fureur de Dieu qui nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère, nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans, mais l'orgueil qu'ils en tirent, que les gens en tirent, n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de tes bontés, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Oui, c'est une prière assez désespérante de Moïse. Alors réfléchissons et méditons sur le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nos cœurs parviennent à la sagesse. Bien compter nos jours. Enseigne-nous à compter nos jours, pas à les utiliser pour nous enrichir, pour nous distraire ou pour je ne sais quoi, non, à les compter, à les peser, à les mesurer à l'éternité qui s'étend au-delà des jours que nous avons à vivre ici-bas. Et enseigne-nous à ne pas remettre à demain ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Jésus lui-même fait une connexion entre nos jours et les jours de Noé. On va lire ça dans Matthieu chapitre 24 et verset 37. Voilà ce qu'il dit. 24, 37. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme, c'est-à-dire lorsque Jésus reviendra. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, ce qui est normal, se mariaient, marieraient leurs enfants, ce qui est normal, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour de Jésus, du Fils de l'homme. Voilà. Jésus nous dit qu'il en est dans notre époque comme du temps de Noé, juste avant le déluge. On fait des tas de choses qui nous semblent normales, mais bon, il y a une corruption terrible à tous les niveaux, que ce soit dans le niveau politique, justice, religieux, dans les familles, partout. Et... Alors, comptons bien nos jours, marchons fidèlement, et fidèles au commandement de Jésus et des apôtres, parce que c'est vrai, nous sommes sauvés par grâce, mais maintenant nous sommes sauvés par grâce afin de pouvoir obéir à ce que Jésus nous dit de faire. Hein. Il attend de nous que nous ne vivions pas comme des gens qui vivent dans une insouciante sécurité. Ça me fait penser à un texte d'Ézéchiel 16, 44. Vous savez qu'on parle souvent, on dit « Oh là là, en ce moment, c'est effrayant, les pédophiles, toutes ces histoires épouvantables, c'est affreux. » Mais savez-vous quel a été le péché de Sodome ? Ben, beaucoup de chrétiens se trompent là-dessus, parce qu'on leur raconte des choses. Mais dans Ézéchiel 16, 44, voilà ce qui est écrit. 16, 44. C'est le prophète qui parle et qui dit « Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elle et ses filles, elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues arrogantes. Elles ont commis des actes abominables devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. » Voilà le péché de Sodome et Gomorre. Ben c'est la même chose aujourd'hui. Et faut pas s'étonner. Dieu regarde, Dieu voit. Et il prend des décisions, il a pris une décision, il a dit, voilà, comme du temps de Noé, à un moment donné, quand tous ceux qui doivent être sauvés seront rentrés dans l'arche, c'est-à-dire dans la véritable Église, qui est décrite dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, tous ceux qui seront véritablement consacrés à Dieu, quand le nombre sera tip-top, comme on dit en Suisse, eh bien, c'est Dieu qui va fermer la porte. Il va fermer la porte. Terminé, fini, circulé, il n'y a plus rien à voir. Alors, comptez bien vos jours. Je vous en prie, mes frères et sœurs. Comptez bien vos jours. Que Dieu vous aide à être sage et à obéir à Jésus. Tout à l'heure, quelqu'un m'écrivait en disant « J'aimerais bien créer une communauté comme la vôtre. Comment il faut faire ?» Je dis, ben vous lisez la Bible, puis vous faites ce qu'elle dit, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je lui raconte? Tout est dans la Bible. Il faut lire la Bible. Lisez la Bible. Tout est dans la Bible. Faites ce qui est écrit dans la Bible, et vous serez agréé par Dieu. On est sauvé par grâce, c'est vrai, mais on doit aussi obéir. Alors, comptez bien vos jours, remplissez-les bien, et puis ne vivez pas dans l'orgueil en disant, oui, mais moi je pense que... Et puis, en n'aidant pas les pauvres, en ne faisant pas... Là, je vois les dons, mais ça tombe, hein, il y a de moins en moins de personnes qui font des dons. « Ah oui, mais Michel, tu te rends pas compte, c'est difficile. » Je sais bien que c'est difficile, mais vous êtes... Là, j'ai vu ces 28 derniers jours, vous êtes 2974 nouvelles personnes à venir écouter les prédications. Si seulement chacun donnait ne serait-ce qu'un euro, vous rendez compte ce qu'on pourrait faire avec? Mais voilà, chacun ne tend pas la main aux pauvres, ils n'aident pas, ils disent, on a cette difficulté nous-mêmes déjà. En fait, Voilà, j'ai dit ça parce que c'est important, ça me semble important. Il faut que nous comptions bien nos jours, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous y aide. Et puis voilà, un jour, bientôt, très bientôt, Jésus revient et on se retrouvera là-haut, il essuiera toutes nos larmes, toutes les larmes de nos yeux. Et puis, il n'y aura plus question de temps, ni de mort, ni de... Voilà, que Dieu vous bénisse. Au revoir.